C'est la question qu'on pose nous aux politiques. Qu'est-ce qui vous fait encore peur dans la vérité sur l'affaire Benbarka? Est-ce que cette vérité est encore plus atroce que ce qu'on peut imaginer? Est-ce que les implications des uns et des autres sont plus importantes que ce qu'on peut imaginer? Mais c'est aux politiques de répondre à la question.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Bachir Benbarka, président de l'Institut Mehdi Benbarka et intervenant de la table ronde sur le cinéma de la Tricontinentale, organisée dans le cadre de la 37e édition du Festival des Trois Continents.
Avec l'avènement du règne de Mohamed VI, je dis qu'il y a des occasions qui ont été manquées. Des deux côtés, hein, côté marocain, côté français. Côté français, on nous a allégué au départ qu'il ne fallait pas trop insister parce qu'il ne fallait pas fragiliser ce nouveau régime qui se mettait en place, qui voulait instaurer une démocratie, un état de droit, etc. Et puis, petit à petit, le régime s'est bien installé. Et on n'a plus parlé de fragilité du régime, mais on n'a toujours pas avancé dans la vérité. La situation n'a pas changé. Et lorsque un juge d'instruction français, le juge Ramael, quand il a été, là de se voir opposer des refus lorsqu'il voulait entendre des responsables sécuritaires marocains, il a lancé des mandats d'arrêt contre ces mêmes responsables. Bien sûr, il a choisi le jour de l'arrivée du président Sarkozy en visite officielle au Maroc pour annoncer ces mandats d'arrêt, ce qui a un peu gâché cette visite. Mais ça n'a malheureusement pas fait avancer le dossier. Au contraire, lorsque nous avons été reçus par des responsables français, la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'était de convaincre le juge de retirer ses mandats d'arrêt. Donc aussi, cette connivence franco-marocaine existe toujours. Et puis aujourd'hui, on nous allègue qu'au nom du combat commun contre le terrorisme, il ne faut pas trop mettre en avant cette histoire ancienne qui pourrait gêner les responsables sécuritaires marocains. Voilà un petit peu les arguments qui sont avancés, et je dirais pour justifier l'organisation de l'impunité des criminels. Parce qu'en fait, c'est là. C'est qu'au bout de 50 ans, les criminels jouissent d'une impunité totale, aussi bien en France qu'au Maroc. Et cette impunité est organisée par les deux États. En France, en usant de la raison d'État. Au Maroc, par exemple, lorsqu'il y a une commission instance équité et réconciliation a été mise en place, il a plutôt insisté pour demander à tous les témoins qui allaient témoigner publiquement de ce qu'ils ont subi comme violation des droits de l'homme, de surtout pas parler de leurs tortionnaires et de les nommer. Donc là aussi, on ne peut pas avancer vers l'équité et vers la réconciliation si on n'a pas la vérité. Et la vérité, c'est aussi nommer ceux qui ont été des responsables des exactions, des tortures, des assassinats, des enlèvements, ce qu'aujourd'hui encore les autorités marocaines refusent.
Avec Bachir Benbarka.
Ah, c'est vous ?
C'est moi. Le film qui est passé hier matin, hier après-midi, vers les 13 ou 14 heures.
Voilà, l'équation marocaine de Simone Biton. Vous l'avez vu ?
Non, on l'a pas vu.
On n'a pas pu.
Non.
Profiter d'une autre projection parce que c'est un bon film.
Ah, bah,
c'est un bon documentaire.
C'est pas en direct, là ?
Non, c'est pas en direct.
Des festivals?
Non, de la famille Benbarka.
Nous, c'est la première fois qu'on vient au festival. Hein. Et puis, c'est par des gens qui les connaissent plus. J'ai un élève qui, ça fait moi 15 ans, qui vient au festival. Et c'est lui qui nous a parlé de ce film. Voilà, c'est comme ça que... Il y a des gens qui vous connaissent beaucoup plus que nous parce que ça fait des années qu'ils viennent au festival. Et c'est vrai que ce sort de festival, ça nous permet de découvrir même des cultures, des contextes, le fonctionnement des populations et tout ça. Pour nous, ça a été vraiment une découverte. Hein.
Moi, c'est vrai qu'il y a dans ce festival, enfin, ce type de festival, il y a toujours un contexte, une atmosphère, une ambiance qu'on retrouve après dans un niveau inférieur par film. C'est assez remarquable. C'est vrai qu'on sort de là, quand on reste quelques jours, on change de monde, de planète, et quelque part, ça bouscule. On est bousculé par le film, enfin, les films, par la mise en scène, par les sujets abordés. Et quand on est à la recherche de ce genre de monde qu'on n'a pas l'habitude de vivre pendant l'année qui s'écoule normalement, ça dérange, et c'est intéressant d'être dérangé de temps en temps.
Est-ce que vous comprenez cette notion de raison d'État ?
Raison d'État, oui. En général ?
Oui.
C'est un vaste. Raison d'État, c'est vaste. Hein.
C'est vaste. Plus pour l'Amérique latine, ça signifie beaucoup de choses, la raison d'État.
Ah, pour moi,
cacher la vérité, changer l'histoire. Voilà, au nom de raison d'État, priver les gens de liberté. Il me semble que ce sont des notions qui, malheureusement, qui est universelle, mais qui aussi qui cache des injustices. Au nom de la raison d'État, l'État se cache derrière la raison d'État pour faire des choses déraisonnables.
Moi, je suis pardon d'un pays qui est, par rapport à l'Amérique latine, c'est différent. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu les mêmes problèmes dans l'histoire des guérillas, de tout ça. Et bon, c'est ce que je dis, c'est vaste. Raison d'État, c'est énorme, énorme. Ça, pour moi, c'est... Ça, déjà les gens, ça, les décisions d'un État, voilà.
Et puis quelqu'un dit aussi qu'en perdant un peu de liberté pour plus de sécurité, on perd et la liberté et la sécurité.
Non, pas tout. Hein.
Donc, ouais.
On est dans une même logique ?
Absolument. Absolument, même ce qu'on vit aujourd'hui, hein, on est dans cette logique-là. C'est vrai qu'il faut de la sécurité, mais en même temps, il faut aussi de la démocratie. C'est la démocratie qui peut amener la sécurité.
Donc ça passe par les échanges, les partages. Quelqu'un d'Isodote, ça c'est Pierre Rabhi, je crois, disait qu'il faut... Les gens vivent en boîte, dans les boîtes, il faut qu'ils sortent de leur boîte. Donc il y a les frontières, il y a les quartiers, il faut s'ouvrir, il faut changer de... Il faut comme à travers ce type de festival aussi, découvrir autre chose, il faut sortir un peu de sa caisse, de sa boîte. Quoi.
Et c'est un festival nécessaire. C'est une nécessité citoyenne. Absolument.
Ah oui, complètement. Hein. C'est important. Hein. C'est pour moi, c'est tout ça, c'est une découverte de plein de détails, plein de choses qu'on n'est pas conscient de fois.
Hein. Je crois qu'il y a, et qui nous rapproche, on se rend compte que d'autres peuples, peut-être qu'ils sont loin de nous, sont très proches de nous en fin de compte, parce qu'on a les mêmes problématiques, on a les mêmes soucis, on a les mêmes parfois modes de réflexion, modes de vie, modes de réaction face à certains événements. Et donc c'est important hein, d'avoir cet élargissement, cette ouverture, mais en même temps, cette proximité avec des gens qui apparemment sont loin de nous.
On se focalise et on se sent unis à défendre des causes qu'on partage pendant une semaine. Et puis le reste de l'année, finalement, on revient à ses occupations.
C'est vrai qu'on revient à nos occupations, mais je crois qu'il y a quand même une graine qui est semée. Même si on revient à nos occupations, il y a quand même quelque chose qui reste. C'est peut-être pas immédiat, c'est peut-être pas dans chaque geste quotidien, mais il y a quelque chose qui reste et qui, en fin de compte, va germer. Et va faire qu'on regarde, on va regarder des événements, on va regarder des comportements différemment.
C'est pour ça que je me méfie des gens qui veulent abaisser la culture. Parce que là, c'est très, très dangereux. Quoi. Donc, canaliser la culture, la fermer dans tous les pays. Est-ce que vous disiez qu'on retrouve ça aussi dans... Enfin, clairement, on retrouve aussi les mêmes processus dans tous les pays. Et on croit que c'est scindé, volontairement c'est scindé pour pas qu'il y ait de regroupement, je dirais, sans polémiquer. Hein. Mais on retrouve toujours les mêmes sujets, les mêmes thématiques dans chaque pays, sur tous les continents.
Les cinq continents, pas uniquement les trois.
En Antarctique aussi ?
Je ne sais pas.
Ce sont des zones internationales. Hein,
oui, je sais, la population est internationale en Antarctique. Oui, ce sont des chercheurs qui viennent de tous les pays.
Et oui, ils s'entendent bien en fait.
Oui. Je crois qu'ils ont défini des règles au départ, hein, donc pour l'instant, est-ce qu'elles sont respectées hein.
Je crois qu'il y a des gens peut-être qui prennent conscience dans un festival comme ça. Après, c'est ce que les gens font le reste de l'année, on ne peut pas gérer. Mais déjà, il y a quelque chose qui peut faire réfléchir les gens. Hein, et ça, c'est déjà pas mal. Hein. Après, bon, chacun dans son univers. Et puis, c'est mieux avoir ça. Parce que ça fait avancer, même si c'est petit à petit, si on forme d'informations, des films comme ça, qui rien du tout.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire.
Un petit rappel.
Mon père a été enlevé à Paris il y a 50 ans. Et depuis 50 ans, on se bat pour savoir ce qui lui est arrivé. Bon, c'était un crime politique, c'est un opposant au roi du Maroc, mais c'est aussi l'organisateur d'une conférence qui s'est appelée la Tricontinentale, qui s'est tenue à La Havane. Pour la solidarité des peuples des trois continents, Afrique, Asie, Amérique, l'Asie latine. C'est pour cette raison qu'il a été enlevé et assassiné. Et depuis 50 ans, on se bat pour connaître où est son corps, qui sont ses assassins. Et c'est la raison d'État qui empêche la vérité d'apparaître. Voilà.
D'où ma question.
Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que vous ne lâchez pas, donc c'est vrai que... Oui,
c'est... Non. Ouais. D'abord pour nous-mêmes. Hein.
C'est d'abord pour la vérité aussi.
Pour nous-mêmes, absolument. Pour nous-mêmes et aussi en tant que citoyens. Parce que je crois que les citoyens, nous avons droit en tant que citoyens à cette vérité. Ce sont nos États, nos responsables. Leurs services ont commis ce crime, ils doivent l'assumer. Et aujourd'hui, il faut qu'ils aient le courage de dire cette vérité à une famille, mais aussi aux citoyens.
Vous faites un travail pour vous-même, pour votre famille, et on ne peut pas dissocier le travail aussi pour l'autre. Ça se rejoint toujours. Hein, donc, mais bon, c'est vrai que cette persévérance est quand même impressionnante. Ça va jusqu'au crime, jusqu'à l'assassinat. Mais dans diverses familles ou régions ou pays. Il existe aussi des crimes peut-être moins poussés, je dirais, mais qui existent quand même. Il faut toujours se méfier des petits crimes qui additionnés, font qu'on peut arriver vers des régimes où justement, plus personne ne décide de rien, donc on sort de la démocratie.
Quoi. Vous pensez à quoi ?
Non, pas forcément à quelque chose en particulier. Alors actuellement, c'est vrai qu'on parle de démocratie, on parle aussi de régimes qui sont en place depuis quelques temps, quelques générations. Je ne parle pas du Maroc en particulier, mais c'est de génération en génération, sans forcément des élections, enfin, passant par des élections démocratiques. Mais on se rend compte que même dans des pays dits démocratiques, avec des élections dites libres, on se retrouve toujours avec les mêmes, je dirais pas familles, personnages qui font que... Donc il y a une similitude et pas... Je sais pas, je me trompe peut-être, mais...
Des dynasties républicaines.
Exactement.
C'est ça, ouais. Absolument, c'est aussi parfois un dévoiement de la démocratie. Ouais. Au nom de la démocratie, mais avec le pouvoir dont disposent certains, ils peuvent se permettre de perpétuer cette prise de pouvoir génération après génération. Absolument, c'est antidémocratique en fin de compte.
Vous avez un site ?
Malheureusement, il est en construction depuis quelques temps. J'espère qu'il va...
Depuis 50 ans ?
Non, un peu moins quand même. Un peu moins. Un peu moins, donc... Essayez de taper sur un moteur de recherche Institut Ben Barka et vous allez avoir des informations.
Aborder votre vie, ce que vous avez vécu, la famille, etc. Il y a toujours les trois dimensions. Le diagnostic, après on passe à l'analyse, et il y a toujours la notion d'action derrière. C'est-à-dire que si on observe, qu'on analyse et qu'on ne fait rien derrière, il y a des gens comme vous qui ont passé cette troisième dimension, enfin qui sont arrivés à cette troisième dimension, et puis d'autres qui sont conscients, enfin qui sont conscients, qui analysent bien, et qui font aussi des petites actions, pas forcément très importantes, mais elles existent. Par contre, je suis un peu admiratif par rapport aux gens qui justement sont... prennent beaucoup de leur temps ou une vie là, pour passer à cette trois dimensions, vous passez à l'action. Quoi.
Ce sont la multiplication de ces petites actions qui font qu'il y a une pression citoyenne, morale, qui se fait sur les dirigeants, parce que c'est eux qui détiennent la clé. Et cette pression se fait par, comme vous dites, des petites actions, même un clic sur une pétition, ou un clic pour dire voilà, je vous soutiens, permet de montrer à nos dirigeants que... Même 50 ans après, l'affaire n'est pas oubliée et ils restent concernés par cette vérité. Vous avez raison.
nous accompagnions dans la rue Bachir Ben Barka, président de l'Institut Mehdi Ben Barka.
Les frontières n'existent pas dans ce domaine-là. Certaines personnes insistent pour que elles existent toujours, matériellement. Mais par contre, dans l'esprit, normalement, il n'y a plus de frontières. Et certaines personnes voudraient aussi tout le temps créer des barrières pour que le débat ou pour pas qu'il y ait de progression dans l'analyse.
On veut tous la même chose, hein. La vérité, la liberté. Hein.
Moi, je dissocie les gens de bonne composition, de bonne foi, les autres. Je ne veux pas plus loin. Il y a des gens qui ont un cheminement, qui progressent, c'est toujours intéressant. Mais les gens qui sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont des intérêts autres, c'est très difficile de construire avec ces gens-là.
Merci d'avoir pris le temps, un dimanche matin.
Au plaisir.
Voilà, parce que c'est réconfortant.
Ben absolument. Moi, de toute façon, ce sont ces rencontres qui nous encouragent aussi à continuer. Aussi, sans le soutien des citoyens, des associations, des mouvements, on aurait continué, mais peut-être un peu plus isolé. Mais là, on se sent toujours réconforté et ça nous aide à poursuivre, à ne pas baisser les bras.
Et le contexte actuel, c'est pas quelque chose qu'on vous renvoie ?
Si, bien sûr. Non, le contexte est difficile. Hein. C'est sûr que là, on souhaitait faire un certain nombre d'actions. Pour l'instant, on va attendre un petit peu. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte, même psychologique, qui est très compliqué. On a tous été touchés de plein fouet par ce qui s'est passé à Paris. C'est pour ça qu'il faut peut-être laisser un petit peu les choses, pas s'apaiser, mais un petit peu laisser un peu le temps de l'inflexion pour qu'aussi on puisse continuer à faire des actions qui soient efficaces. Hein, on tient compte aussi de l'environnement.
Content d'avoir vécu ces bons moments en ce début de dimanche. C'est vrai que c'était pas prévu, improvisé pour nous, mais...
On a un échange intéressant, je crois que c'est enrichissant pour tout le monde, il me semble.
Ok.
Merci bien.
Merci.
Bonne continuation. On ne vous a pas dit, on a fait 300 km pour venir ici. Hein.
Vous venez d'où alors ?
De Lannion.
On
fait 800 km.
Voilà.
Je viens de Belfort. D'autre côté.
D'accord. À l'est. Hein.
Et moi, j'ai fait 6 km.
Malgré la distance,
on se rapproche.
On se rapproche.
Non, puis bon séjour à Nantes. Hein.
Les rencontres comme celle de ce matin restent toujours. Ça dure 5-10 minutes, mais c'est toujours ancré. Parce que des rencontres.
Si, mais c'est réciproque.
Absolument, c'est réciproque. Hein. Toutes les rencontres que j'ai pu faire, je les garde. Ça me fait chaud au cœur.
Comme je disais, je termine dans le sens que les frontières existent, elles sont matérielles, elles existent. C'est comme ça en 2015. Mais c'est toujours intéressant de plus avoir de frontières dans la tête, dans l'esprit. Et il y a des gens qui ont du mal encore à. Parce que c'est toujours la même thématique qui sont abordées dans tous les. Quand je vois des gamins ou des adultes de tous les continents, moi, c'est on vit sur la même terre et puis il faut qu'on dépasse tout ce qui
est... Et on est nombreux à avoir d'être clair dans la vision sur ce qui arrive ailleurs, ici.
Ouais, voilà. Ce qu'on pense.
Et qui s'avance, hein, même si c'est petit à petit.
Et donc il faut un terrain favorable justement pour que ces gens-là puissent s'exprimer et déjà pouvoir réfléchir à tout ça, puis pouvoir en parler. Quoi. Donc, et quand on réfléchit à ça, il n'y a pas forcément beaucoup de lieux pour des échanges de ce type-là, il n'y a pas. On est pris par le quotidien, la consommation, puis alors que...
Comment vous vous projetez dans l'avenir ?
Par rapport à ce combat de la vérité, nous sommes tributaires aussi d'autres facteurs. Nous sommes tributaires aussi du temps judiciaire. Nous sommes tributaires du politique aussi. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ne dépendent pas directement de nous. Alors, nous, en tant que famille, en tant qu'aussi institut Mehdi Ben Barka Mémoire Vivante, il y a une action qui est dans la continuité. Donc, pour la mémoire, donc il y a des choses qui sont programmées, des choses qui vont se faire. Il y a aussi, dans le cadre du 50e anniversaire, aussi bien de la disparition de mon père que de la tricontinentale. Donc un certain nombre d'activités culturelles qui sont déjà programmées pour les quelques mois à venir.
Parce qu'on est un petit peu en avance, au mois de novembre.
Mais oui, non.
Déjà pas au mois beaucoup de... d'ailleurs.
Non. C'est vrai que depuis 50 ans, je dirais, ma vie ou la vie de ma famille a été sur deux axes. Bien sûr, un axe professionnel, familial, mais aussi un axe dirigé vers cette quête de la vérité. Et l'avenir, ce sera aussi dans ce sens-là. Hein. J'espère qu'à un moment ou à un autre, il n'y aura plus cette quête de la vérité, parce qu'on aura abouti dans ce combat, et que ce sera le travail de mémoire d'une association, d'une famille, en l'élargissant à d'autres personnes, à d'autres structures, pour que la pensée, l'action de mon père puisse servir aux nouvelles générations. Il n'est pas question de dire qu'elle peut être reproduite telle qu'elle, hein, mais elle est toujours d'actualité, mais elle pourra contribuer à la réflexion des nouvelles générations, des jeunes générations, pour qu'elles puissent se construire et construire leur avenir. C'est ce qu'on espère, hein, c'est le but de notre action, c'est pouvoir léguer aux générations actuelles, aux futures générations, un travail, une action, une réflexion qui pourra les aider à avancer. Et puis sur le plan professionnel, à partir de l'an prochain, je serai en retraite, ce qui veut dire que j'aurai peut-être un peu plus de temps à consacrer à ce travail, à cet autre travail.
Ça, c'est un petit clin d'œil. Peut-être que vous allez trouver la bonne équation pour résoudre.
Je crois que dans le domaine des sciences humaines, c'est difficile de parler d'équation. C'est jamais aussi strict. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement d'impondérables qu'on est dans le domaine ce qu'on appelle des mathématiques floues.
Oui, parce que pour nos auditeurs, il faut dire que vous faites partie aussi de ces professeurs qu'on n'aime pas trop, les professeurs de maths.
Ça, j'ai déjà constaté. Mais je fais quand même en sorte que cette réputation ne soit pas toujours vérifiée. J'espère. Hein, que je fais en sorte que mes étudiants gardent un bon souvenir de leur passage par l'IUT, de leur passage par les cours de maths.
On peut plaisanter un petit peu. Hein.
Bien sûr.
Merci à Bachir Ben Barka, président de l'Institut Mehdi Ben Barka, et merci à
Pierre-Yves,
Sandra,
pour leur libre participation à ce reportage enregistré dans le cadre de la 37e édition du Festival des Trois Continents. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview dans la rue à la rencontre du public de Nantes ?
D'abord, un cadre agréable. Ça me rappelle un petit peu les rues de Rennes. J'ai vécu 12 ans à Rennes avant d'aller à Belfort. Et je retrouve un petit peu quelques aspects architecturaux, même de la configuration des rues rennaises. Donc j'ai de très bons souvenirs. J'ai gardé de très bons souvenirs de la Bretagne. J'ai essayé d'y revenir le plus possible. Ça permet aussi, bon, comme vous avez dit au départ, marcher, c'est pour un petit peu éviter de réfléchir, pour se déstresser. Bon, aujourd'hui, ça a été le contraire. Ce n'est pas que ça a été stressant, mais il faut bien sûr réfléchir, entre guillemets, pour toujours pour être le plus précis pour l'auditeur, hein, être précis. Bon, il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas l'affaire Ben Barka, qui entendent parler du nom de Mehdi Ben Barka. Dans l'actualité, l'affaire Ben Barka revient assez régulièrement, mais qui ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc essayer d'apporter aussi bien cette dimension historique, judiciaire, mais aussi, même si c'est pas toujours... Bon, le temps peut-être ne le permettait pas, le temps d'émission ne le permettait pas, d'aussi donner une physionomie humaine à la personne de Mehdi Ben Barka, ce qu'il a été, ce qu'il a pu être. Ça aussi, c'est l'intérêt du film de Simon de Biton, de présenter le parcours de cet homme. Voilà un petit peu tout ce qui passe par l'esprit au cours de cette réflexion. Et puis, bien sûr, on a eu une rencontre très intéressante avec ce couple qui est venu de Lannion. Ça permet un échange, je crois, très, très enrichissant à chaque fois. Ça donne d'autres ouvertures, d'autres possibilités de réflexion et d'avancer dans sa vision du monde.
pour conclure définitivement ce programme, je vous indique juste le titre du film de Simone Bitton, cité dans ce reportage, Ben Barka, l'équation marocaine. Merci pour votre précieuse écoute.